Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Droit de parole. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir deux invités spéciales de la gestion des études. Bonjour mesdames.
Bonjour.
Bonjour Maïla.
Vous allez bien?
Très bien.
Excellent. Donc je vais commencer par vous laisser vous présenter à nos chers auditeurs.
Alors bonjour. Donc moi je m'appelle Magali Deschaines, je suis conseillère à la gestion des études.
Noémie Binotto, conseillère à la gestion des études aussi.
Donc, est-ce qu'il y en a une qui aimerait m'expliquer qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, pourquoi vous êtes sur le podcast Droit de parole quand vous êtes la gestion des études de la Faculté de droit de l'Université Laval?
Oui, bien en fait, d'abord merci de nous inviter, ça c'est vraiment apprécié. Ce qu'on voulait faire, c'est peut-être se présenter auprès des étudiants pour expliquer un peu qu'est-ce que fait le service de la gestion des études. Souvent, on s'aperçoit que les étudiants ne connaissent pas nécessairement l'ensemble des services qu'ils peuvent bénéficier chez nous. Alors, c'est un peu pour ça là, qu'on voulait se présenter, dire qu'est-ce qu'on fait, comment on peut intervenir à travers le cheminement des étudiants, comment on peut les accompagner puis bien les aider tout au long de leur parcours.
Excellent, parce que si jamais vous n'êtes pas en droit, la gestion des études, c'est vraiment une ressource qui est offerte par la faculté pour les étudiants, qui, je crois, mériterait d'être encore plus connue parce que vous sauvez des vies, on va se le dire, là. Vous facilitez le parcours à bien des personnes. Donc, c'est un peu ça le but aujourd'hui, de vous les faire découvrir puis de vous donner quelques-uns de leurs astuces aujourd'hui.
Donc, oui, puis peut-être dire aussi que chez nous, en fait, la couleur qu'on a, c'est vrai que la gestion des études, c'est un service qui est offert à l'ensemble de la communauté étudiante. Tous les départements, toutes les facultés offrent un service de gestion des études. Mais je dirais que nous, à la Faculté de droit, on a une couleur... en fait, je pense qu'on veut se donner une couleur un peu particulière dans le sens où on veut donner beaucoup un service auprès des étudiants. On veut être présent, on veut être visible, on souhaite que les étudiants et les étudiantes viennent vers nous pour recevoir l'accompagnement auquel ils ont droit là, pendant leur cheminement, puis s'assurer que ce parcours-là se fasse aussi très bien.
On vise aussi à avoir comme un suivi plus individualisé. T'sais, on apprécie quand on voit les étudiants revenir avec des questionnements. T'sais, on veut que ça soit un service qui soit sans pression. Là. Tu peux venir à la gestion des études puis pas nécessairement devoir prendre une décision quand tu sors de nos bureaux, mais des fois, c'est juste pour te renseigner, pour être sûr de comprendre un processus, pour prendre de l'info. Donc, vraiment, on veut que ça soit plus à grandeur humaine. T'sais, on veut pas nécessairement que ce soit juste des courriels qu'on envoie, mais on est super content quand que les étudiants viennent nous voir là, à nos bureaux.
Tout à fait.
Parfait. Puis pour établir ça tout de suite, là, vous êtes situé où?
Local 2235, sur le deuxième étage là, du pavillon de Coninck.
Présentement à côté du Café Paul.
Pour exactement.
Voilà.
Exactement. Donc, on est accessible.
Puis, Magali, tu l'as mentionné un petit peu, la gestion des études, c'est pas juste pour la faculté de droit, mais vous, vous deux, vous êtes vraiment assignés aux étudiants en droit.
Donc, moi et Noémie, travaillons toutes les deux au premier cycle. Donc, moi, particulièrement, je m'occupe du cheminement des étudiants. Puis Noémie, elle a d'autres mandats qui sont orientés plus vers...
Plus vers les examens. Puis on est une équipe de 7 au total. On est 4 agentes, 3 conseillères. Puis c'est vraiment... c'est comme si on se divisait ensuite en 2 équipes. Fait qu'on a vraiment l'équipe du premier cycle puis l'équipe des cycles supérieurs. Ça n'enlève pas au fait qu'on est assez flexible, comme on dit. Là. Donc, moi et Magali, on pourrait conseiller aussi au cycle sup. Puis, même chose pour notre collègue, là, Hélène, qui est conseillère au cycle supérieur, pourrait aussi parfois répondre à vos questionnements quand on n'est pas sur place au moment où vous arrivez. Mais c'est ça. Mais en gros, on est 2 équipes. Puis, moi et Magali, on est vraiment les 2 assignés au premier cycle. Moi, au niveau baccalauréat, là, je m'occupe plus de l'admission. Donc, c'est moi qui ai regardé vos dossiers là, avant d'être admis, puis en collaboration avec une agente aussi. Puis une fois que vous êtes dans le programme, moi, mes tâches sont plus en lien avec les examens, les reports d'examens, avec les consultations des examens. Donc, moi, c'est vraiment mon expertise. Puis Magali, je te laisserai aller avec...
Oui, en fait, moi, c'est vraiment le cheminement. Donc, tout ce qui touche les choix de cours... la progression dans le programme, qu'est-ce qui arrive quand on a un échec, comment on fait notre choix de cours pour avoir un cheminement qui se tient la route et qui se fasse très bien pendant tout le parcours. J'aimerais peut-être aussi parler des abandons, donc tout ce qui touche quand les étudiants pensent abandonner un cours, donc je suis peut-être la personne à qui s'adresser là, pour en discuter. Là, si jamais c'est quelque chose qui qu'un étudiant
Excellent. Bien, parlant de cheminement, commençons avec ça. Il existe plusieurs cheminements pour un étudiant en droit à la faculté de droit ici à l'Université Laval. Est-ce que vous voulez m'en parler un petit peu plus?
Donc, en fait, le baccalauréat en droit, c'est un baccalauréat qui s'échelonne habituellement sur 3 ans, donc qui était prévu initialement sur un cheminement 3 ans. Mais on a mis en place, là, il y a quelques années, une structure sur 4 ans. Parce qu'on le sait, les sessions en droit, c'est quand même exigeant, c'est demandant. Alors, on a la direction de programme a structuré, en fait, un programme qui peut s'échelonner sur 4 ans. Puis, je dirais qu'il y a environ entre 30 et 40 % des étudiants, là, on sent vraiment une tendance là, assez de plus en plus grande des étudiants de suivre là, ce cheminement-là. Donc, 4 ans, un cheminement sur 4 ans, ça veut dire des sessions à 12 crédits, ce qui maintient quand même une inscription à temps plein à chacune des sessions. Donc, ça, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là. Puis, il n'y a pas nécessairement de cours d'été à suivre, parce que sur 3 ans, évidemment, là, pour arriver aux 99 crédits, faut faire des cours pendant la période estivale. Sur 4 ans, ben, il n'y a pas là, d'obligation là, à faire des cours là, pendant la période d'été.
Peux-tu rajouter quelque chose?
Non. Bien, en fait, là, ce que je pourrais aussi peut-être rajouter, c'est pas mal vu ou moins bien vu de faire un parcours 3 ans versus 4 ans. T'sais, nous, on ne distingue pas nos étudiants. Ah, lui, il chemine en 3 ans, lui, il chemine en 4 ans. T'sais, c'est vraiment là, pour votre santé, votre bien-être, qu'est-ce qui vous convient le mieux. Vous êtes un étudiant qui veut travailler, vous êtes un étudiant qui veut s'impliquer. Bien, le cheminement 4 ans pourrait peut-être mieux vous convenir versus le cheminement 3 ans. Il n'y a vraiment pas de stigma ou c'est pas moins bien de cheminer à 4 ans versus 3 ans. Puis, souvent, vous venez nous voir là, à la première session, vous êtes à 5 cours, vous ne savez pas si vous maintenez ou vous abandonnez. Bien, nous, on est là pour vous accompagner dans cette réflexion-là. Puis, n'hésitez pas là, à venir, là, surtout en première session. Là, des fois, vous avez l'impression que c'est un gros choix puis ça va vous impacter tout le reste de votre parcours. Mais sachez que même si vous descendez à 4 cours puis vous voulez revenir à 5 cours, c'est possible aussi par la suite. Magali, c'est vraiment sa tasse de thé là, d'accompagner là, ces étudiants-là. Donc, n'hésitez vraiment pas là, à venir. Là.
Effectivement. Puis, ça donne de l'espace, je trouve, pour les étudiants. Là, ça vous donne de l'espace pour vous impliquer dans un comité. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, en fait, à la faculté. Donc, moi, je trouve que c'est un...
Bien, du côté de l'étudiante que je suis, bien, moi, j'ai commencé mon parcours à temps plein, 5 cours session pour le faire en 3 ans. Puis, ma deuxième année, j'ai décidé d'y aller à 4 cours. Puis, tu sais, c'est vrai qu'on a un peu cette mentalité-là de « Oh mon Dieu, je vais le faire en 4 ans », mais c'est pas le cheminement normal. Mais finalement, là, c'est vraiment pas « that deep », excusez-moi l'expression. Ça nous permet, moi, je travaille en même temps, je suis impliquée, je danse, je fais plusieurs choses. Fait que, tu sais, ça l'allège le quotidien. Ça nous permet quand même... on est quand même temps plein. Là, on n'est pas là à rien faire. Là. On a nos cours, puis ça roule pareil, mais ça permet d'enlever une certaine pression. Puis c'est vraiment pas aussi gros que ce qu'on pense de changer de cheminement. Puis c'est intéressant aussi pour le barreau, parce que c'est bon à savoir que vous n'allez pas être obligé d'avoir un 6 mois sabbatique à ne plus aller à l'école si vous le faites en 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, tout dépendamment comment vous avez fait votre cheminement. Fait que le barreau part à... pas mal en l'hiver, mais là, l'été, c'est fini, là, c'est terminé, là, je pense.
Ouais, ben là...
Fait que là, c'est ouvert automne,
mais on va assurément, dire. Assurément, il y a une session à l'automne puis une à l'hiver.
C'est ça.
Donc, tu sais, vous ne perdez pas, là...
C'est ça. Fait qu'on n'a pas cette pression-là. Peu importe, vous finissez quand, vous allez pouvoir aller au barreau sans prendre un an sabbatique. Okay? Fait que ça, c'est quand même intéressant à savoir. Puis moi, en tant que, mettons, étudiante, là, si je pouvais conseiller quelqu'un qui rentre au bac, c'est de l'essayer. Moi, je l'ai essayé à temps plein, première session. Ça a bien été. C'est des cours aussi d'introduction, fait que ça l'aide. Puis je l'ai essayé, ça l'a bien été. Avant de l'abandonner, tu sais, si on est mitigé entre les deux, 4 ans, 3 ans, bien, essayez-le. On va en parler plus tard. On peut abandonner un cours avant que ça ait des répercussions. Fait que vous ne perdez rien à le faire. Puis si jamais vous voyez que votre semaine est trop chargée, votre horaire ne fonctionne pas, bien, on ajuste avec la gestion des études.
Ben oui, exactement. Dans le fond, sachez que c'est possible. T'sais, effectivement, tu le dis bien, Maïla, tu peux commencer avec une session à 5 cours. Puis là, tu vois, à un moment donné, oups, la charge est un petit peu trop grande. T'sais. Le message que j'aurais à lancer aux étudiants, c'est mettez-vous pas de pression puis de stress. T'sais, c'est déjà, vous avez déjà des grosses études avec beaucoup, beaucoup de stress juste lié aux études et aux examens, donc ne stressez pas ultimement là, pour ça. Donc, on est là pour vous accompagner. J'ajouterais peut-être juste par rapport au cheminement 3 ans, 4 ans, puis la date de diplomation, en fait, c'est que par rapport au barreau, c'est vrai qu'il y a des entrées à l'automne et à l'hiver. Par contre, ceux et celles qui veulent aller en droit notarial, bien là, l'entrée est seulement qu'à l'automne. Donc, si vous pensez aller en droit notarial, bien, venez me voir. Souvent, on va tricoter un peu un cheminement qui fait en sorte que l'étudiant va diplômer à l'issue de la session d'hiver ou d'été, ultimement, pour être capable de commencer, là, sans avoir là, de session d'arrêt.
Puis, on a parlé de 5 cours, là, puis les personnes de première année qui sont rentrées à cet hiver, j'ai eu beaucoup la question qui en ont 6 d'obligatoires. Mais c'est normal.
Ouais. En fait, dans les premières sessions, c'est une bonne question, effectivement, parce que il y a un cours qui est dans la première session, Introduction à l'étude du droit 1 et 2. Donc, c'est un peu comme un cours. Pour nous, là, c'est comme un cours de 3 crédits,
c'est
en fait, qui est divisé en deux parties. Donc, oui, c'est vrai qu'on va voir à l'horaire, là, des fois, 6 plages de prise pour des cours, mais c'est quand même l'équivalent d'un cours de 3 crédits. Donc, pour le cours d'introduction à l'étude du droit, ben, c'est une semaine avant le début de la session, avec un examen là, qui a lieu peut-être 2 à 3 semaines au début de la session. Puis ensuite de ça, ben, c'est l'introduction à l'étude du droit 2. Puis on a aussi le même principe là, pour la deuxième session. On a un cours de recherche, rédaction juridique, donc effectivement qui est divisé en 2 sections, mais en termes de charge de travail, c'est vraiment l'équivalent d'un cours.
L'équivalent de 5 cours à temps plein égale 6 cours pour ta première année, c'est normal. Puis si tu veux le faire en 4 ans, c'est 5 cours au lieu de 5 ou 4, vu qu'ils vont ensemble.
Ben, ça va c'est être... au nombre de crédits, en c'est fait, ça, la ça, façon en fait, de se démêler. Fait que dans le fond, un cheminement en 3 ans, c'est du 15 crédits. Puis un cheminement en 4 ans, c'est du 12 crédits.
Effectivement.
Fait que c'est, quand on parle de 5 cours, 4 cours, c'est vrai que ça peut devenir mélangeant là, dans tes premières sessions. Mais on pense au nombre de crédits. Donc, 15, 3 ans, 12, 4 ans.
4 ans, exactement.
Parfait. Puis là, aussi, avant d'aller vers un autre sujet... c'est quand même important de soit suivre le cheminement qu'on reçoit en début d'année ou de venir vous voir pour quand on veut abandonner un cours ou quel cours... Tu sais, si je veux y aller à 4 ans, c'est quel cours que je lâche en premier parce que ça a une importance dans votre cheminement.
Exactement. Bien, sur le portail du bac en droit, il y a beaucoup d'informations puis les structures sont vraiment bien décrites là, sur le portail. Alors, mais oui, il y a des cours qui stratégiquement, si vous voulez, pour votre première session, cheminer à 12 crédits... Il y a des cours qu'il faut absolument garder à votre cheminement pour ne pas être retardé éventuellement là, dans les sessions subséquentes. Là.
Fait que si on n'est pas certain, au lieu de faire n'importe quoi, on va s'informer.
Puis des fois, les étudiants qui sont en cours de route, bon, tu sais, on en a des étudiants qui vivent, qui ont des échecs, puis qui doivent peut-être redistribuer ou refaire leur cheminement avec des cours qui normalement sont donnés à la session 2, puis qui cheminent avec un cours de session 3. Donc, ça aussi, c'est toujours préférable de venir nous voir, puis on regarde un peu qu'est-ce qui est le plus adapté là, pour ne pas trop bloquer l'étudiant là, dans son parcours.
Excellent. On a aussi, à l'Université Laval, plusieurs profils d'offres. Est-ce que vous voulez me parler un peu plus de ces différents profils-là?
Oui, en fait, il y a 3 profils au baccalauréat. Le plus populaire, c'est le profil international. Donc, cette année, je pense que c'est près de 40 étudiants là, qui vont partir là, en 25-26 à l'étranger, faire une session dans un autre pays. Et on a deux autres profils, qui est le profil développement durable et le profil entrepreneurial. Donc, en fait, c'est des cours pour ces deux profils-là, les deux derniers, c'est des cours que les étudiants doivent sélectionner dans leur cheminement puis que ça leur donne une mention là, à la toute fin de leur cheminement sur leur relevé de notes.
Puis, est-ce que ça faut que je décide que je veux faire ce profil-là en début de parcours, ma première session, ou je peux m'informer puis regarder ça en cours de route?
En cours de route. Il n'y a pas de choix à faire dès le début du programme. C'est la même chose pour le droit notarial, la concentration en droit notarial qui va être mise en place dès l'automne prochain. Donc, l'étudiant n'a pas nécessairement à dire « moi, je m'inscris puis je fais la concentration ». Il peut le choisir ou le décider pendant son parcours.
Peut-être une petite truc que j'ajouterais par rapport au profil. Le profil international va être un profil qui va permettre aux étudiants d'avoir des cours de reconnus, de crédités, partout. Tu sais, règle 2, règle 3, règle 5, versus profil entrepreneuriable et développement durable. C'est sûr que si tu es un étudiant qui c'est des profils qui t'intéressent, ben peut-être avoir en tête que ces profils-là vont venir combler ta règle 5. Mm-hmm. Donc, tu sais, non, pas décider dès ton début de parcours, mais une fois que tu as commencé, ben, si tu as une idée, ben, peut-être viens nous voir pour qu'on en discute. Ou avoir en tête profil entrepreneurial, profil développement durable, ça va être des cours hors discipline. Donc, des cours autre chose que du droit. Donc, ta règle 5 sert à ça.
Mm-hmm, effectivement.
Bon, fait que maintenant, vous savez que ça existe. Si jamais vous voulez plus vous informer davantage, ben, vous viendrez voir la gestion des études.
Exactement.
ensuite, si on parle de la règle 5 un petit peu, où est-ce que les cours pratiques arrivent un peu plus? Parce qu'on l'entend souvent, là, c'est beaucoup théorique au début du bac. Est-ce que je vais plaider dans mon bac ou ça va juste aller dans ma pratique plus tard? Ou est-ce que je vais pouvoir faire... des tribunaux à l'école.
Mm-hmm.
Je vous laisse parler du côté plus pratique de la formation.
Oui. Bien, en fait, j'aurais envie peut-être de présenter un petit peu comment le bac est structuré. Mm-hmm. Donc, ça, on l'explique bien dans les rencontres de deuxième, troisième année, là. Pour les premières années, on leur dit, vous suivez vos cours obligatoires, vous devez vous concentrer là-dessus, mais éventuellement, c'est vrai qu'il y a des cours de règles à les satisfaire. Donc, en fait, il y a 5 règles actuellement qui sont au baccalauréat. Donc, la règle 1, bon, ça, c'est il y a 2 cours. Donc, il faut choisir soit entre droit administratif 2 ou succession ou libéralité. Donc, c'est un de ces deux cours-là qui doit être suivi. Sinon, les cours de formation critique de règle 2. Donc, c'est tous des cours, c'est pas du droit pur, là. Tu sais, vous avez, par exemple, la sociologie du droit, philosophie du droit, éthique, etc. Donc, c'est un cours qui est à choisir minimalement dans cette règle-là. Puis ensuite de ça, il y a le volet formation pratique. Ça, c'est notre fameuse règle 3. Donc, il y a un minimum de 6 crédits qui doivent être cherchés dans cette règle-là. Puis ensuite, les cours d'option en droit qui sont de règle 4. Puis finalement, nos cours hors discipline qu'on parlait tout à l'heure, là, qui sont de la règle 5. Donc oui, il y a un minimum de crédits à aller sélectionner pour satisfaire les exigences là, de ces différentes règles-là. Les cours de formation, tu parlais de tribunal école tout à l'heure, de concours de plaidoirie, bien ça, c'est l'occasion pour les étudiants de vraiment se tester puis se mettre à l'épreuve dans un domaine du droit. Donc, ça, il y a différentes possibilités. Il y a des stages, il y a les concours de plaidoirie, mais c'est vraiment pratique. C'est vraiment appliqué à soit de la plaidoirie, soit il y a des recherches dirigées qu'on peut faire si on veut expérimenter un petit peu plus la rédaction. Donc, il y a vraiment une multitude de possibilités. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment intéressant pour les étudiants parce que c'est là que vous allez donner une couleur à votre baccalauréat. Donc, si vous choisissez, par exemple, de faire des recherches dirigées, bien, vous choisissez un thème, puis vous explorez, vous creusez sur ce thème-là. Donc, je pense qu'en entrevue, vous pourrez voir avec Dominique Trudel, mais en entrevue, ça devient pertinent puis fort intéressant de dire, bien, moi, dans mon bac, j'ai choisi de faire plus de crédits de formation pratique parce que je voulais aller expérimenter, je voulais me mettre à l'épreuve, je voulais sortir de ma zone de confort. Ça vous permet d'apprendre aussi ce que vous aimez puis ce que vous aimez moins aussi.
Mm-hmm.
Donc, ça, je trouve que c'est une belle opportunité. Puis sinon, ben, dans les cours de règle 4, ben, là, c'est les cours de droit là, à option. Donc, si vous voulez explorer le droit pénal, le droit des affaires, le droit civil, donc vous avez une multitude de possibilités aussi.
Étant donné que c'est bon à savoir que nous, ici, on n'a pas un cheminement de droit pénal à suivre, donc je décide que je vais dans cette branche-là, je fais un cheminement de droit pénal. Au contraire, c'est justement vers la fin du bac, dans notre règle 4, qu'on va pouvoir colorer un peu à notre saveur notre parcours. Fait qu'on a une base qu'on est obligé les premières années et demie, deux années... qu'on est obligé de suivre des cours précis et utiles pour la suite. Puis après ça, vers nos dernières années, on va pouvoir aller plus du côté pratique, plus du côté de ce qu'on aime, les types de droits qu'on aime. Puis il y a aussi les fameux cours du barreau. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu veux donner, si vous voulez donner votre opinion par rapport à ça, parce qu'on l'entend quand même souvent. Est-ce que j'y vais avec des cours qui m'intéressent ou j'y vais avec les cours du barreau?
Bien, ça dépend toujours de l'aisance de l'étudiant, de sa confiance, je dirais, qu'il a peut-être en lui ou en elle. Donc, c'est sûr que si le barreau, pour passer le barreau, s'il y avait des cours obligatoires, on les mettrait au cheminement de façon obligatoire. Donc, à travers ça, l'étudiant peut choisir très bien d'aller comme il veut dans ses choix de cours. Donc, moi, c'est ça. J'aurais envie de vous dire, allez-y. Tu sais, le bac sert à explorer le droit. Donc, allez-y vers les domaines dans lesquels vous voulez aller, que vous voulez explorer. Vous êtes curieux, curieuse de découvrir un domaine du droit X. Bien, moi, c'est un peu le message que j'aurais envie de lancer aux étudiants. Puis, si vous ne faites pas, je ne sais pas, les cours qui sont listés droit, là, je pense que tu peux m'en
Ben, je pense que c'est succession.
Succession, bon, c'est ça. Donc, si vous ne le faites pas, bien, je pense que vous êtes quand même capable. Mm-hmm. Puis, vous avez les outils nécessaires là, pour réussir votre barreau, là.
T'as une opinion aussi sur ça?
Mais je sais que c'est comme une... comment dire? Une source d'insécurité là, pour plusieurs ou de stress, là, justement, en fin de parcours. J'ai pas réussi à prendre tous les cours barreaux. Puis on en discute quand même régulièrement là, avec notre directeur de programme qui est d'avis de dire c'est pas la fin du monde. Puis ça vous met pas en situation d'échec, par exemple, si vous aviez pas pris tous les cours qui sont listés ou même encore là. Si vous vous dites, moi, là, je les regarde même pas, les cours barreaux, là, puis j'y vais vraiment avec ce qui me parle, bien, ça ne veut pas dire que vous mettez en échec pour l'école du barreau en aucun temps. Mm-hmm. T'sais, souvent, on parle de... Si Magali parlait de confiance en soi, bien, c'est de se dire, bon, j'ai peut-être pas fait le cours X, mais bien, au pire, je ferai plus de lecture ou je serai de façon plus autodidacte quand je serai à l'école du barreau, mais je vais avoir appris à réfléchir, je vais avoir appris. Donc, mm-hmm. C'est aller chercher plus cet aspect-là que l'aspect contenu. Ça va peut-être vous donner, ça apporte une autre facette aussi à votre bac, là, t'sais. Ça serait triste de diplômer d'un programme puis de se dire, j'ai pas fait les cours qui me tentaient parce mm-hmm. que j'avais peur d'échouer la suite, quand finalement, c'est même pas des cours qui sont obligatoires, t'sais.
Parce qu'on, c'est ça, on va en parler qu'il existe énormément de types de droits puis de cours mm-hmm. qui sont offerts. Il y en a beaucoup, mais ils sont même pas tous offerts. Hein. Mm-hmm. C'est ça que Daniel les dit souvent, là. Mm-hmm. Il y a des droits qu'on n'est même pas capable de vous offrir parce qu'il y en a trop. Mm-hmm. Bien, on peut se laisser surprendre aussi si on se restreint au cours du barreau puis au cheminement régulier puis qu'on n'essaye pas, bien peut-être que vous allez passer à côté d'un type de droit qui était fait pour vous puis que vous auriez été en amour avec puis que finalement ça aurait été votre pratique, mais que là, vous ne l'avez jamais essayé. Donc, vous passez à côté puis... c'est quand même intéressant ce côté-là de se dire il en existe tellement, fait que pourquoi se restreindre à ne pas les découvrir? Hein?
Mmh. Effectivement.
Excellent. Ensuite,
voulais-tu que je parle des exigences de langue tout de suite?
Oui, on pourra peut-être y aller avec ça, mm-hmm. tant que dans le cheminement et tout ça.
Ouais, exactement. Donc, avec le principe des règles qu'on parlait là, avec Magali, il y a aussi des exigences de langue. T'sais. En fait, là, c'est au moment de diplômer, il faut avoir satisfait toutes nos exigences de langue, donc que ce soit française ou anglaise. Pour tous les... rapidement, là, parce qu'on a souvent des questions sur les exigences de langue, puis c'est un peu plus nébuleux. Là. Si on est un étudiant issu du cégep, là, on est entré là, après notre cégep, le cégep, on l'a fait à Québec, on a eu notre
épreuve...
Ouais, on a eu notre épreuve uniforme de français. Notre exigence de français va être satisfaite automatiquement. Donc, on n'a pas associé notre exigence de français. Par contre, on a associé notre exigence d'anglais. Donc, avant la fin de votre parcours, il faut absolument que vous passiez le test de classement d'anglais. Puis, il faut avoir une note de mémoire, c'est 53?
53.
Oui, 53. Et si on a 53, il y a un petit crochet vert qui va apparaître dans votre rapport de cheminement qui va mentionner « on a satisfait l'exigence d'anglais, pas besoin de faire de cours ». Par contre, pour ceux et celles qui n'auraient pas 53, bien, dépendamment du résultat que vous avez, il faut faire un cours de mise à niveau, en fait, d'anglais pour avoir le niveau à atteindre, là, pour satisfaire l'exigence. Donc, souvent, on recommande aux étudiants, c'est peut-être pas votre première session, là, mais après votre première année, là, allez-y, faites le test d'anglais, ça va vous donner une idée de votre classement, puis s'il faut faire des cours d'anglais, bien, encore là, bien, ça va vous aider à déterminer là, la suite de votre cheminement. Donc, tu sais, souvent, ce qui est très dommage, c'est qu'à chaque année, on arrive en position, un étudiant en position de diplomation qu'on pourrait diplômer parce qu'au niveau droit, il y a tous ses acquis. Il manque juste sa maudite... il manque juste son exigence d'anglais. Mais c'est triste de dire à un étudiant, tu ne peux pas diplômer parce que tu n'as pas ton niveau d'anglais. Donc, c'est vraiment une précaution à prendre, là. Donc, exigence d'anglais. Et si, au contraire, vous êtes un étudiant issu d'un milieu anglophone ou encore vous êtes allé à Saint-Laurent au Cégep, bien là, votre exigence d'anglais est satisfaite. Il vous manque à compléter votre exigence de français. Pour les exigences de français, c'est un peu plus particulier. Donc, quand ça vous arrive, n'hésitez pas à vous retourner vers nous. Là, puis au niveau technique, là, on saura vers qui vous rediriger.
Effectivement.
Parfait, excellent.
J'ajouterais peut-être un petit point par rapport aux exigences de l'enquête. Les étudiants qui font le cours, c'est le ANL 2020 là, qui doit être fait pour satisfaire l'exigence de langue. Là. Donc, venez nous voir si jamais vous avez à faire ce cours-là, parce que parfois, il va se glisser à votre règle 5. Et si votre règle 5 est déjà pleine, il s'ajoute au nombre de crédits nécessaires pour diplômer. Donc, en tout cas, à retenir, si jamais vous faites le cours d'ANL 2020 pour satisfaire votre exigence de langue, venez nous voir juste pour qu'on s'assure que tout rentre bien dans votre rapport de cheminement, parce que des fois, on a des surprises aussi.
Parce qu'on a un nombre de crédits exact à faire, je crois. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut dépasser?
Bonne question.
C'est une bonne question. Ouais. Oui, 99 crédits, oui, effectivement. Donc, c'est sûr que... un étudiant, par exemple, qui voudrait aller faire sa maîtrise en droit notarial, parce que là, c'est vrai qu'il y a des cours qui sont fortement, qui doivent être suivis pour entrer à la maîtrise en droit notarial, on va permettre à un étudiant là, de faire un cours supplémentaire pour pouvoir y accéder. Donc, c'est pas quelque chose, là, une fin de non-recevoir pour tous les étudiants. Mais, tu sais, le bac est de 99 crédits. Donc, sous certaines conditions, oui, on peut permettre à un étudiant de faire plus de crédits.
Mais la règle normale est que...
Mais la normale, c'est après 99 crédits, ben c'est ça, c'est la diplomation, c'est ça, c'est terminé, parce que ben, vous le savez, quand vous venez pour vous inscrire aussi, hein, les nombres de places sont limitées dans les cours, donc on veut évidemment donner les places aux étudiants qui ont vraiment besoin de suivre les cours.
C'est un bac très contingenté. Mm-hmm. Faut laisser la place au suivant.
Même si vous aimez trop ça.
Oui, exact. Si jamais tantôt, on a parlé du parcours 3 ans, 4 ans, puis on a mentionné les cours d'été. Mm-hmm. Quelle est cette chose? Les cours d'été, c'est quoi? C'est quand? Comment? Oui, exact.
Est-ce que j'en prends? Est-ce que j'en prends pas?
Exact.
Donc, c'est sûr que la logique à la base là, du programme, on offre des cours de droit à chaque session d'été, puis je pense qu'on est une des facultés qui offre la plus grande offre de services de cours pendant la période d'été. Donc, ça, sachez que vous allez avoir des choix de cours. Par contre, quelqu'un qui pourrait vouloir faire suivre son programme puis utiliser ses sessions d'été pour faire ses cours hors discipline. C'est un petit peu comme ça que le bac a été, à la base, là, un peu réfléchi. Mais oui, il y a possibilité, pas dans les premières années. Tu sais, l'été 1, là, il n'y a pas beaucoup de choix de cours possibles. Mais plus vers la fin du cheminement, là, c'est possible là, de faire des cours d'été. Il y a souvent des cours, ce qui est souvent sélectionné par les étudiants, c'est les stages d'été axés sur la carrière. Donc, vers la fin de leur parcours, souvent les étudiants vont travailler dans un domaine bureau ou un ministère quelconque, dans le domaine du droit.
Ça, c'est bon à savoir parce qu'il y en a plein qui travaillent dans des cabinets l'été, mais qui ne savent pas qu'ils peuvent se faire créditer votre travail.
Exactement.
Il faut juste s'assurer qu'au moment où tu fais le stage, tu peux le faire. Mm-hmm. Dans le sens que pour faire le stage d'été axé sur la carrière, tu as besoin d'avoir acquis un certain nombre de crédits, tu as besoin, tu sais, pour que vraiment ça soit reconnu comme un stage d'été, puis que tu aies des crédits associés, il faut que tu te prennes d'avance. Il faut que tu trouves un prof qui veut te superviser, il faut qu'il y ait quelqu'un dans ton domaine, dans ton travail, en fait. Il faut qu'il y ait des objectifs qui vont être mis en place. Fait que, ça ne peut pas être a posteriori. Là. Tu peux pas arriver après l'été et dire « j'ai travaillé tout l'été dans un cabinet, je peux-tu avoir le stage d'été d'accès sur la carrière? » Donc, c'est important de faire tes démarches avant. Là,
Pour le préparer, effectivement.
Mais c'est bon à savoir si vous avez l'intention de, pendant votre 3-4 années au bac, travailler dans un cabinet ou autre.
Puis sur le portail du bac en droit, on liste toujours les cours qui ont été offerts aux sessions d'automne, d'hiver et d'été. Donc, tu sais, c'est jamais une garantie. Là, si un cours a été offert à une session d'été, ça ne veut pas dire qu'on va le redonner à la session d'été suivante, mais ça peut donner une idée à peu près là, des cours là, qui sont à faire.
Puis, pour avoir fait des cours, un cours l'été passé, c'est pas la même chose que pendant l'année scolaire régulière.
Non, c'est un petit peu plus intensif. Donc, un étudiant qui voudrait faire deux cours de droit, parce qu'effectivement, ils sont donnés sur cette semaine d'abord. Donc, un cours va être donné, par exemple, le lundi et le mercredi, ou le mardi et le jeudi. Donc, ça veut dire que on n'a pas une semaine entre les deux cours là, pour faire les lectures, se mettre à jour. Donc, c'est quand même assez intensif. Donc, faire deux cours de droit pendant l'été, c'est quelque chose, honnêtement.
C'est une session à temps plein, carrément.
Mm-hmm. Ouais.
C'est quatre cours par semaine.
C'est quatre cours, puis c'est deux matières, mais qui avancent
très rapidement.
Donc, c'est pas quelque chose que je vais recommander à un étudiant. Souvent, de le jumeler avec un cours hors discipline, ben, ça peut faire plus de sens, ou avec le stage d'été axé sur la carrière, une recherche dirigée aussi pourrait être très bien faite là, pendant la période d'été. Mais c'est ça, les cours de droit, là, si vous vous orientez vers ça, sachez là, qu'un cours, là, c'est amplement suffisant. Mm-hmm.
Eh bien, si je peux donner mon opinion en tant qu'étudiante, là, ben moi, deux cours semaine, un cours d'été, je peux travailler, je peux profiter de l'été. Puis, je m'attendais vraiment pas à ça. Finalement, non, pas vraiment, parce que si tu fais pas tes lectures du lundi, mais le mercredi, on continue la matière, mais on est rendu encore plus loin. Fait que là, après ça, ça déboule. Donc, ne faites pas comme moi et prenez en considération que ça roule. C'est pas un petit cours par-ci, par-là, de côté, l'été, que vous pouvez faire sur le balcon, dehors, à côté de la piscine. C'est plus intense que ça. Puis, justement, vu que c'est... la période de temps raccourcie, ben ça roule tout le temps. Là. Fait que
les examens arrivent rapidement.
Vraiment. Puis, c'est quand même bon à savoir, là, la gestion des... J'exclus la gestion des études de ça. C'est vraiment mon opinion en tant que moi, Myla Morin, étudiante. Là. Mais c'est quand même à prendre en considération que on a fini, ben un ou une session, tout dépendamment si vous êtes rentré à l'automne ou à l'hiver, mais on a fini une grosse année. La fin d'examen, la fin de session est passée, puis on n'a pas vraiment de pause entre les deux. Encore moins si vous impliquez dans un comité ou la ED, moi, ça va embarquer direct. Puis là, j'avais mes cours d'été, j'avais même pas eu le temps de prendre une petite semaine de congé tranquille, puis ça repart. Fait que c'est quand même à prendre en considération. Si vous vous demandez, « Ah, je le fais-tu? Je serais pas obligée, ça me tente-tu ou pas? » Ben c'est quand même, c'est ça. Moi, j'avais trouvé ça quand même difficile de pas de pause puis de rembarquer. Puis là, il fait beau, on vient de finir notre année, on est quand même plus fatigué qu'à notre fin de session d'automne, parce que là, ça fait un an qu'on se donne, qu'on est là-dedans. Là, il commence à faire beau, tout le monde tombe en congé. Fait que c'est quand même à prendre en considération que, tu sais, vous pourrez pas travailler à temps plein, profiter de l'été, puis voir vos amis, puis faire le cours d'été en même temps. C'est ça. Fait que, voilà.
Tu m'enlèves les mots de la bouche, parce qu'effectivement, c'est quelque chose là, que je mentionne souvent aux étudiants. Là. Sachez que vous arrivez en avril avec un peu une année dans le corps d'études d'espace intense. Là, donc, effectivement.
Ben, si on est fragile, on se sent fragile, on ne se sent pas au top de notre forme, ben peut-être qu'un cours, puis que vous voulez vraiment faire un cours d'été, peut-être qu'un cours hors bac serait plus intéressant dans ce cas-là. Si vous avez toute votre énergie, vous êtes motivé, allez-y. Puis, mais par contre, ce qui est il y a des pour, mais il y a des contre aussi, les deux. Bien, moi, j'avais adoré faire un cours de droit qui est considéré quand même comme un gros cours pendant l'été parce que je focussais que sur ce cours-là. T'sais? Fait que la matière, n'était pas mélangée à d'autres matières. Puis ma session d'automne, bien, j'étais contente de l'avoir faite. Mm-hmm. Puis ma session était plus allégée. Mm-hmm. Fait que,
c'est un autre commentaire qu'on reçoit aussi souvent, là. Tu sais, se dire qu'on se dédie pendant... parce que c'est 7 semaines. Donc, après le 7 semaines, vous avez enfin
ben
une
oui,
pause.
Puis on tombe en congé en même temps que le secondaire. Fait que c'est pas vrai que notre été, on n'en a pas, là. C'est que l'université finit quand même tôt, là, dans l'année. En mai, c'est tôt. Fait que on a un été normal pareil, là. C'est juste que... C'est ça.
Mais c'est ça, mais c'est pas rien. C'est pas rien, c'est en effet. Mais c'est ça, des fois, on a des étudiants aussi qui vont dire « Ah, ben le fait de pouvoir me plonger dans une matière qui aurait été tellement exigeante à travers mes 5 autres matières, quatre autres matières, mais ça m'a permis de me concentrer puis de me focusser que là-dessus. » Donc, ça peut être intéressant, mais là, c'est de se dire « Est-ce que je veux 2 matières de droit? » Là, ça devient intense.
Ça, c'est ça. Chapeau à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront, parce que... un, c'est assez.
Effectivement.
Excellent. Maintenant, est-ce que vous voulez parler un petit peu de vos rencontres d'information que vous donnez aux étudiants? C'est quoi? C'est qui doit y aller?
Oui,
quand?
Bien, en fait, il y a 2 types de rencontres qu'on fait systématiquement à chaque session. Donc, la rencontre des nouvelles qui arrivent en droit. Mais ça, on va dans les cohortes. Alors, à ce moment-là, on a plus la chance d'attraper tous les étudiants. Puis ce qu'on fait dans ces rencontres-là, c'est de se présenter. Il y a déjà beaucoup d'informations pour les nouveaux. Donc, on ne veut pas vous bombarder. On sait qu'il y en a qui sont très curieux puis qui veulent déjà en savoir plus, justement, sur le cheminement, etc. Donc, mais il n'y a pas de... On se présente, on dit « Voici les prochaines sessions, ce que vous allez devoir suivre dans votre cheminement. » On explique le cheminement 3 ans, 4 ans. Puis, c'est grosso modo, c'est pas mal ça qu'on va faire dans ces rencontres-là. On parle un peu des examens aussi, mm-hmm. pour démystifier un petit peu...
les modalités d'évaluation, qu'est-ce qui se passe si je suis absent à un examen, c'est quoi les périodes de consultation. Fait qu'un peu tout le jargon étudiant que les deux et troisième années connaissent, ben là, on essaie de leur présenter pour la première fois dans nos mots, là, pour pas que ça les déstabilise trop quand c'est rendu les consultations, puis on sait pas c'est quoi une période de consultation.
Mm. Souvent, j'ai des étudiants aussi qui sont du billet prix. On a plusieurs étudiants mm-hmm. qui arrivent, je fais peut-être une parenthèse là-dessus, on en a plusieurs qui arrivent là, de ce bac-là, puis qui ont déjà des cours de crédité au bac en droit. Donc, il y a un cheminement qui est un peu particulier pour ces étudiants-là. Puis certains, tout dépendant du nombre de sessions qu'ils ont fait dans ce bac-là, il y a des cours, ils vont être forcés d'être parfois à des sessions à 4 cours par session. Donc, si vous avez du billet prix puis que vous voulez valider votre choix de cours, là, venez vers nous, là, puis on pourra regarder ça. Si je continue sur les mm-hmm. rencontres, on a un deuxième type de rencontres aussi qu'on fait qui sont dédiées aux deuxième, troisième années. Habituellement, on la fait avant le choix de cours de la période estivale. Et là, c'est là qu'on explique là, vraiment. On rentre en détail dans comment suivre son rapport de cheminement. On démystifie un petit peu les différentes règles aussi. On rappelle aux étudiants d'aller sur Capsule parce que c'est là qu'il faut aller voir si on est satisfait toutes les exigences. Donc, tantôt, Noémie parlait des petits crochets verts exact. Qui apparaissent. Donc, Capsule, là, on ne le dira jamais assez. Sur votre portail, vous avez de l'information, mais pour vraiment valider ce qui est vraiment juste, là, c'est d'aller voir sur Capsule. Alors, on présente ça également. Donc, c'est grosso modo un peu ça qu'on va aborder.
Puis, je vous dirais que c'est des rencontres qui sont toujours très, très pertinentes. Ouais. Même si vous avez l'impression que vous connaissez l'info ou que... assistez-y. À chaque année, là, on explore un nouveau point. Des fois, on se base aussi sur des questions qu'on reçoit beaucoup. Puis là, on se dit « Ah, regarde, ça, c'est pas clair, on va leur en parler. » Par exemple, là, on a les stages, là, tu sais, comment avoir accès aux stages. On a une nouvelle procédure. Bon, ben on va en parler pendant les rencontres pédago. Donc, tu sais, c'est des rencontres qui restent toujours pertinentes, même si vous pensez tout comprendre. Il y a toujours des petites finesses. Là, même à Galie, c'est notre travail à temps plein, puis on en apprend toujours. Donc, en tant qu'étudiant, là, ça peut pas... C'est des rencontres super pertinentes, puis ça reste que c'est... Généralement, on rentre dans une heure, puis mm-hmm. on essaie de faire ouais, ça.
Oui, sur l'heure du dîner, donc effectivement, souvent, si c'est des rencontres de deuxième, troisième année, ben on ne la fait pas nécessairement dans le cadre d'un cours, donc c'est les étudiants qui veulent. On essaie de réserver la plus grande salle possible au Deconinck pour avoir le plus d'étudiants possible, mais c'est ça, on vous invite là, fortement à assister à ces rencontres-là.
Donc, si je suis un étudiant de première année, avant de venir vous voir, là, si je suis un peu perdue, j'ai peur, je sais pas trop, je m'enligne où, qu'est-ce que je dois faire? Aller à la rencontre, cette fameuse rencontre de début d'année, mais avant de venir voir, qu'est-ce qu'on doit faire?
Bien, sur le portail du bac en droit, il y a beaucoup d'informations. Mm-hmm. Donc, moi, je dirais, commencer par aller éplucher qu'est-ce qu'il y a comme info là. Puis, si vous avez d'autres questions, venez vers nous, c'est sûr, ça va nous faire plaisir, mais souvent, les réponses se trouvent là, mm-hmm. sur le portail du bac en droit. Donc, peut-être pour un nouveau ou une nouvelle, ça serait peut-être de se diriger là, sur ce portail-là.
Puis pour ceux qui ne savent pas où est ce portail, parce que des fois aussi, on a la question, quand vous êtes sur mon portail, puis vous avez l'onglet cours, puis là, vous avez tous vos cours qui se déclinent, à la suite de vos cours, il y a l'onglet qui s'appelle « Autres activités ». Puis dans le fond, c'est là que ça s'appelle « Baccalauréat en droit ». Puis c'est au même titre qu'un portail de cours. Fait que ça s'appelle le portail du baccalauréat en droit. Puis c'est là qu'on met à jour là, l'information assez rapidement. Je vous dirais, la gestion des études, c'est comme notre outil pour communiquer avec vous le plus rapidement possible. Parce que sinon, il faut passer par le site de la faculté ou autre plateforme mm-hmm. de communication. Mais vraiment, le portail, c'est là qu'on est capable d'ajouter de l'info rapidement. Fait que oui, allez le consulter. Puis sinon, on adore aussi vous recevoir. Là, fait que n'hésitez jamais à venir. Attends, vous dites, je ne l'ai pas trouvé sur le portail, mon Dieu, ils vont me juger. Non, jamais. On va être là pour vous montrer où est l'info, puis vous allez le savoir pour la prochaine fois. Donc, n'hésitez pas.
Ça me fait penser aussi, souvent, quand on envoie des messages par l'adresse premier cycle, là, c'est important, mm-hmm. les étudiants, de vraiment voir, surveiller vos courriels. On le sait, vous recevez une tonne de courriels de l'université, puis c'est un peu... C'est un peu fou, là, mais essayez de faire, en tout cas, minimalement, donnez-vous une routine pour voir à chaque jour, aller voir dans vos courriels s'il n'y a pas des nouveautés. Quand on a des informations importantes ou que la direction de programme a des messages importants, c'est par ce courriel-là là, qu'on communique aux étudiants. Donc, quand vous avez de l'info de premier cycle, ben c'est important. Là, c'est quelque chose qui...
Mm-hmm. Il va être écrit, FD.
FD,
exact. Ouais. Quand c'est FD, vous savez que c'est important.
C'est important. C'est
puis souvent, même, on essaye de filtrer. Fait que quand on fait des envois massifs, là, on dit, OK, ça s'adresse plus aux deux, troisième année, on filtre. Fait que, tu sais, quand vous recevez le courriel, souvent, c'est que ça va vous concerner.
Oui, vous concerne effectivement.
Et fun fact, j'ai appris ce matin en preuve, ça vous est opposable. Dans le sens que si le courriel est envoyé puis vous l'avez reçu, ben il est présumé, c'est présumé que vous l'avez lu.
Ah, OK.
Fait que l'information qui est à l'intérieur, ben vous êtes présumé le savoir. Fun fact de preuve. Merci, Jean, pour tip. OK. J'aimerais ça aller peut-être un peu plus du côté de ton mandat pour les échecs.
Oui.
Les fameux échecs.
Bien, ça arrive. Ça se peut que vous viviez un premier échec dans votre carrière d'étudiant. Vous n'êtes pas les seuls, c'est pas la fin du monde. Vous pouvez venir dans notre bureau, vous pouvez avoir les larmes aux yeux, ça va bien, on va vous accompagner là-dedans. Sachez qu'il y a plusieurs étudiants qui ont des échecs, puis il y a plusieurs étudiants pour qui c'est leur premier échec quand ils arrivent au bac en droit. T'sais, vous avez été sélectionné parmi déjà des étudiants qui performaient très bien, puis c'est pas un bac qui est facile. Donc, souvent en première puis deuxième session, là, c'est là qu'on voit certains de nos étudiants qui vont frapper un petit mur. Rien d'incontournable, mais qui vont se buter à leur première difficulté académique. Puis un échec, ce n'est pas irréversible, dans le sens où si vous avez un échec à un cours, sachez que si vous reprenez le cours, l'échec est écrasé d'une certaine façon. Donc oui, il va apparaître dans votre relevé de notes, mais le poids de l'échec sur votre moyenne de cycle, votre moyenne de programme, il va être écrasé. Donc, des fois, on a des étudiants qui se questionnent à savoir « Est-ce que je poursuis même si j'ai peur d'avoir un échec? » Bien, souvent, on va leur dire « poursuis, essaie, puis si tu n'es pas satisfait de ta note ou si au terme du cours, tu as un échec, il y aura toujours une possibilité pour toi de refaire le cours. » Puis souvent, quand ces étudiants-là sont venus nous voir au préalable, puis on en a discuté, puis qu'on va dans cette direction-là, on leur garantit une place de la session subséquente. Donc, mettons, vous avez échec en droit constitutionnel, bien, on vous garantit une place en droit constitutionnel la session suivante.
C'est sûr que vous allez avoir la possibilité de le refaire. Mm-hmm. Donc, tu sais, là, on est en pleine période des relais, là, puis on en a des étudiants qui disent « Oh mon Dieu, ça s'est pas bien passé », puis ils arrivent comme un peu en panique, là, tu sais, c'est le premier examen, c'est l'examen de relais, il y a toujours possibilité de se reprendre. Puis comme Noémie dit, des fois, souvent, là, ultimement, les étudiants réussissent à passer, là.
Mm-hmm.
Donc, tu sais, il y a un taux d'échec, oui, qui est plus grand dans les cours de première session, mais tu sais, c'est pas dramatique. Là,
c'est plus côté adaptation que côté...
Exactement, exactement. Donc, tu sais, ce message que j'aimerais lancer aux étudiants, là, paniquez pas là, si jamais ça s'est pas bien passé ou si le résultat n'est pas à la hauteur de ce que vous souhaitez. Il y a toujours place là, à se reprendre.
Puis surtout pour les étudiants de première année, parce qu'on s'en rencontre assez vite par la suite, la mi-session n'est pas la fin du monde. Dans le sens que si vous avez un 46, parce que ça prend 50 pour passer en droit, là, c'est bon à savoir. Si vous avez un 46, ça vaut pas toujours la peine d'aller, bien, comme premièrement, ça vaut jamais la peine d'abandonner, vous perdez rien à l'essayer, mais souvent, la mi-session, c'est le temps de se planter parce que la fin de session vaut pour autant si c'est pas plus. Fait que si on score à la fin de session, on peut s'éviter un échec, là. Fait que c'est correct de se planter, c'est correct de pas avoir les notes qu'on aurait voulu avoir à la mi-session. Chaque prof a un style différent, un style de correction, un style d'examen. Fait que mettez-vous pas de pression si ça n'a pas si bien été que ça à la mi-session, puis là, vous allez savoir comment travailler pour bien réussir à la fin de session.
Puis je ferais même du pouce sur ce que tu dis, Maïla, puis tu sais, justement, à la faculté, on met beaucoup de l'avant là, la période de consultation des examens, qui est un moment idéal là, pour pouvoir justement aller observer, bon, pourquoi j'ai fait ces erreurs-là, qu'est-ce que le prof recherche. C'est une opportunité pour voir votre copie corrigée, commentaire ou pas commentaire, puis le corrigé de l'examen. Donc, tu sais, à quel style de réponse le professeur ou l'enseignant s'attend, ou qu'est-ce que j'ai pas compris, je pense avoir compris tel concept. Puis c'est vraiment, moi, quand j'étais aux études, je savais même pas que ça existait ou qu'on y avait accès. Puis depuis que je suis à la faculté de droit, je me dis, waouh, quel bel outil pour... s'améliorer, en fait. Là. Donc, en effet, là, la mi-session n'est pas la fin du monde. Puis, tu sais, je vous encourage à aller consulter vos copies. C'est vraiment un processus qui est bénéfique. Là.
Bien, je pense que ça devrait être quasiment obligatoire pour les premières années parce que, aussi, d'un autre côté, la façon de répondre à un examen de droit n'est pas pareille. Là. Fait que si on arrive de sciences humaines, c'est complètement différent. Comment on cite nos articles, comment on cite la juriste. Fait que des fois, c'est pas que vous avez pas compris, c'est que vous avez pas répondu d'une façon... comme un juriste devrait répondre, point. Fait que pour ça, ça vaut, je pense que tout le monde gagne à y aller, peu importe que vous ayez une très bonne note ou une moins bonne note, c'est très, très utile.
Je tiens à dire, là, c'est un processus qui est quand même laborieux. Ben, en fait, là, la période des consultations, là, c'est très... j'ai juste lourd en tête, là, mais c'est très intense là, à gérer pour la gestion des études. Il faut rapatrier tous les examens que vous avez faits, mm-hmm. ensuite imprimer les corrigés. Puis on essaie vraiment, là, parce que c'est un peu ça fait partie de mes tâches, là, justement, mm-hmm. l'organisation de la période de consultation avec des collègues aussi. On est une petite équipe. Mais c'est tout le temps un processus qui est assez laborieux. Donc, si jamais, là, au moment de la consultation, la copie ne vous est pas remise, si jamais il y a un petit pépin, je vous prie de ne pas paniquer. Souvent, là, je vais recevoir des courriels d'étudiants qui n'ont pas été capables de consulter. On trouve toujours une façon de vous faire consulter vos examens. Donc, avoir en tête que c'est un processus qui est assez mm-hmm. important. Puis,
Il y a beaucoup d'étudiants aussi, de plus en plus, là, j'ai vu la statistique, là, mais la dernière consultation, donc on essaie de peaufiner nos façons de faire mm-hmm. pour s'assurer que l'expérience soit la plus optimale possible, mais dans le contexte où, effectivement, c'est dans un court laps de temps, avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de copies, mm-hmm. Oui, il peut arriver des fois des situations là, qui roulent peut-être moins bien, mais on
fait de notre mieux. On essaie vraiment.
C'est ça. Puis on trouve toujours la solution. L'étudiant va toujours réussir à consulter là, son examen.
Petite statistique, là, quand on dit que c'est super important pour les étudiants, là, il y a 850 étudiants qui sont venus consulter leur copie à la suite des relais de l'automne. C'est 850 sur environ 1000 étudiants là, actifs. Là, donc, c'est énorme.
Puis, rapidement, c'est bon à savoir que si jamais les profs sont humains, les correcteurs sont humains, il peut avoir des erreurs. Si vous n'allez pas à votre consultation, vous le saurez pas. Puis si vous détectez une erreur ou compilation des points ou peu importe, ben il est possible de
faire une demande de révision de notes.
Oui, c'est ça, révision de notes. Donc, mais pour ça, faut d'abord aller voir votre copie en consultation. Voilà. Petite parenthèse.
Puis par rapport au... Parce qu'on a commencé à discuter mm-hmm. de ça, parce qu'on jasait des échecs, là. Il y a un centre de soutien hein, qui...
On a un épisode avec eux d'abord.
D'ailleurs. Donc, allez écouter l'épisode, parce qu'effectivement, souvent, là, c'est très, très, très utile pour les étudiants de... En tout cas, moi, quand je les rencontre et que ça va moins bien, là, c'est le premier réflexe que j'ai, c'est de les diriger. Puis on a souvent des retours très, très positifs, là, donc...
Mm-hmm. Avant de voir ça comme un échec, ça peut être une de... On est chanceux parce qu'on a beaucoup de solutions. On a la gestion des études qui est là pour nous faire un plan. On a le centre de soutien qui est là pour nous mettre en application ce plan-là, bien réussir. On a un personnel incroyable à Laval, ça, faut se le dire. Donc, merci beaucoup, les filles. Puis, parlant de code Z, mm-hmm. est-ce qu'il y a un minimum, là? Ben, je sais que oui, là, mais là, parlons-en là, de la cote minimale pour rester au bac.
Mm-hmm. Le fameux rendement.
Le fameux rendement, c'est ça. Dans le fond, oui, en fait, pour obtenir son diplôme, n'importe quel diplôme, c'est prévu au règlement des études, il faut avoir 2 sur 4.33. Donc, ça, c'est la note minimale qu'il faut avoir de votre moyenne de programme. Donc, les étudiants qui, à l'issue d'une session, obtiennent en bas de 2 de moyenne, là, ils tombent dans ce qu'on appelle un rendement universitaire. Donc là, ils reçoivent un courriel du registraire leur disant que blablabla, ils ont pas, ils ne satisfont pas les exigences, etc. Donc là, moi, je me dépêche d'écrire aux étudiants parce que souvent, ça génère un peu de stress, évidemment. Donc, je me dépêche de leur écrire parce que moi, je sors évidemment à cette liste-là. Puis, j'invite les étudiants à venir me rencontrer. Puis, la rencontre, là, ça ne vise pas à dire « bon, on va te sortir du programme ». Loin de là, c'est de trouver des solutions. Ce qu'on essaie de voir, c'est qu'est-ce qui s'est pas bien passé, qu'est-ce qui explique là, que la situation a été moins... l'étudiant a moins bien performé. Puis on met en place des solutions pour l'aider à trouver des façons de faire, des stratégies qui vont être efficaces puis qui vont l'amener vers la réussite. Donc, puis avant de dire à un étudiant qu'on l'exclut du programme, là, on a fait le tour vraiment là, du jardin puis on a essayé de voir toutes les solutions possibles. Puis souvent, l'étudiant s'aperçoit par lui-même que
c'est pas
les rares fois où ça arrive, là, moi, je n'ai pas eu beaucoup, honnêtement, là, depuis que je suis ici. Donc, les rares fois que ça arrive, ben c'est ça. C'est un peu l'étudiant, il constate par lui-même que je pense que je ne suis pas faite pour le droit ou ils songent déjà à autre chose. Là. Donc, stressez pas si vous avez une...
N'ayez crainte de la légende urbaine, vous allez être capable de rester dans le bac.
Exactement. Puis, j'ai pas de piton et jack à côté de mon bureau. Là.
C'est ça.
Ayez en tête, là, c'est peut-être un fun fact, là, mais tu sais, dans nos formations respectives, là, moi et Magali, là, Magali, elle est conseillère en orientation de formation, puis moi, je suis psycho-éducatrice de formation. Donc, tu sais, il n'y a pas... On est des personnes qui doivent respecter un cadre, qui doivent, tu sais, on a le règlement des études, on a des politiques facultaires, mais avant tout, on est aussi des humains empathiques. Puis, tu sais, quand on reçoit des étudiants, on les reçoit dans cette empathie-là, puis dans ce désir-là qui est de réussite. Donc, tu sais, quand vous venez dans nos bureaux, vous faites pas chicaner. Là. Souvent, on est plus en mode solution. Comment on peut vous accompagner? Qu'est-ce qui va pas bien? Et que,
oui, effectivement, c'est vraiment l'approche là, qu'on a chacune.
Excellent. Comme prochain point, j'aimerais qu'on aborde là, le capsule. On l'a mentionné plus tôt, là, mais c'est quoi ce capsule? Ça, c'est vraiment... Je fais partie des gens, là, capsule est un mythe, là.
Ouais, la plateforme mythe, la moins mais... intuitive.
C'est ça. Parlez-moi ça, pas, ça va être utile à moi aussi.
Mais en fait, là, c'est un peu... capsule, c'est de là où l'information part. T'sais, vous êtes souvent sur mon portail au niveau du choix de cours. C'est une plateforme qui est beaucoup plus intuitive puis beaucoup plus agréable. Mais je vous dirais que l'information exacte se trouve sur capsule. Souvent, là, on parle de rapport de cheminement. Ça, pour nous, là, à la gestion des études, c'est comme la Bible. Quand on vous reçoit, la première chose qu'on vous demande, votre ENI, puis où on va dans votre rapport de cheminement sur capsule. Puis c'est là qu'on voit où vous êtes rendu dans votre cheminement, qu'est-ce qui vous reste à faire. Puis tu sais, des fois, ça peut devenir un peu flou ou complexe, mais quand on regarde le rapport de cheminement, c'est beaucoup plus clair. Tu sais, tantôt, je parlais de petits crochets verts, des petits X rouges. Tu sais, c'est... Malgré le fait que c'est pas très intuitif, ils essaient de communiquer l'information de façon assez simple, mais c'est ça. Fait que, capsule, c'est de là que l'information vient. Nous, quand on fait des manipulations dans votre dossier, vous avez quelque chose de crédité, si un cours se déplace, si vous avez une technique juridique, vous avez une équivalence d'EGBAC, ben tout dans capsule, là, vous allez voir ça se placer. Donc, on vous invite vraiment à y aller. On peut aller sur capsule à partir de mon portail.
Okay.
Puis une fois que... Je ne sais pas exactement c'est dans quel onglet là, sur mon portail, par contre. Mais c'est un lien cliquable, puis ça vous amène sur capsule.
Excellent. Puis c'est à peu près où, mettons, dans le portail? Serais-tu capable de...
Bon. Donc, pour avoir accès à capsule, le chemin le plus court là, serait d'aller sur mon portail, dans l'onglet « cheminement ». Puis vous allez avoir « rapport de cheminement » sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Ça va vous amener directement là, sur capsule. Puis là, vous allez pouvoir sélectionner le rapport de cheminement de la session qui vous intéresse. Là.
Excellent! pour terminer, est-ce qu'il y a des derniers petits points que vous aimeriez aborder? Là, bon à savoir.
Bien, peut-être un endroit, j'ai parlé de mon portail, là, du portail du bac en droit. Vous pouvez trouver sur le portail, de même que sur le site de l'AFD, une zone où il y a tous les formulaires de la gestion des études. Donc, si vous avez des questions... vous questionner un peu sur comment faire pour vous inscrire, par exemple, au concours de plaidoirie. C'est là que les formulaires apparaissent. Donc, il y en a quand même une bonne dizaine là, de formulaires. Mmh. Donc,
stage d'été axé sur la carrière qu'on parlait plus tôt.
Oui, la recherche dirigée.
Profil international, les absences aux évaluations.
Ouais.
Donc, c'est à l'endroit où se trouve la majorité des formulaires. On aime travailler par formulaire. Mmh. Simplement, pas parce qu'on veut dépersonnaliser la chose, là, mais plus parce que quand vous remplissez un formulaire, on s'assure d'avoir toute l'information nécessaire. Donc, soyez pas offusqués si vous nous écrivez un courriel puis on vous demande de compléter le formulaire. C'est simplement parce que ça nous permet d'avoir le numéro de cours, le NRC.
C'est plus efficient.
Exactement.
Excellent. Donc, je pense qu'on a quand même fait le tour de l'essentiel.
Oui, exactement. Puis moi, j'aimerais peut-être conclure en disant que je vais être présente, moi et une collègue agente, juste avant la période des choix de cours. C'est une période où il y a beaucoup de questions des étudiants. À la gestion des études, hein, on est comme un peu, on suit le rythme là, du calendrier scolaire et académique. Donc, il y a des moments où on est vraiment dans des situations intenses, on a beaucoup, beaucoup de travail. Puis la période des examens, des choix de cours et des inscriptions en est une assez importante. Donc, on reçoit beaucoup de messages. Donc, j'ai fait ça là, de la session passée. Donc, je m'installe au deuxième étage à la sortie d'une salle de classe. J'ai une bannière gestion des études. Puis, je suis disponible là, pour accueillir les étudiants là, qui ont des questions sur leur choix de cours. Donc, ça nous permet, là, dans un court laps de temps, de rencontrer beaucoup d'étudiants. Donc, oui, vous pouvez nous vous présenter au local 2235. Vous pouvez nous écrire, mais il y a aussi cette possibilité-là là, pour nous rencontrer.
Parce qu'on n'en a pas parlé, là, mais vite, là, ça m'a amené à dire ça, le choix de cours. Et vous êtes là aussi pour nous quand... Parce que les choix de cours, souvent, on a des nombres limités de personnes par cours. Fait que si jamais vous vouliez vous inscrire à un cours, il est plein, puis l'autre plage horaire, ben vous avez un conflit d'horaire, ça fonctionne pas, ben c'est vous qu'on contacte dans ce temps-là pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Ne paniquez pas, là, il va y avoir une solution, mais c'est la gestion des études qu'on contacte pour ça aussi.
Oui, exactement. C'est sûr qu'ultimement, il y a des cours qui restent pleins, puis tu sais, quand le cours est plein, ben je veux dire, il est complet, là. Il y a des certaines... on a quand même... On parlait de politique et de règlement. Oui. Donc, c'est sûr qu'on a des politiques, des règlements à l'université où on doit donner, je pense, aux étudiants athlètes, entre autres, aux étudiants parents. Donc, on doit respecter quand même ces politiques-là. Mm-hmm. Mais, tu sais, c'est sûr que si le cours est plein puis qu'il n'y a pas de possibilité...
Ou, tu sais, si vous ne savez pas lequel lâcher pour ne pas avoir de conflit d'horaire puis que ce n'est pas nécessairement lui, vous pouvez venir voir la gestion des études qui va tout vous faire un plan pour... selon les cours que vous avez.
On parlait tout à l'heure d'un étudiant, par exemple, qui échoue un cours, fait que tu prends tes cours de troisième session, puis tu fais en même temps un cours de deuxième session, ton cours de deuxième session entre en conflit avec un autre cours, ben
on regarde ça.
Ouais, on regarde ça ensemble.
Je ne sais pas si on aborde le sujet un peu de la surinscription, parce qu'en période d'inscription, on reçoit énormément de courriels, là, justement, parce qu'il n'y a plus de place dans les cours. T'sais, sachez qu'en début de session, la majorité des cours ne sont pas pleins. Tu sais, il y a comme un phénomène, malheureusement, là, un phénomène étudiant où les étudiants vont s'inscrire à plus de cours qui vont ultimement suivre. Puis ça fait que pendant la période d'inscription, dépendamment de la journée à laquelle là, ton inscription est débloquée, des fois, on a des étudiants qui arrivent pour s'inscrire puis il n'y a aucun cours qu'ils avaient sélectionné qui est disponible. Donc là, c'est sûr qu'il y a un sentiment de panique générale là, qui s'installe. Mais malheureusement, nous, on n'a pas de contrôle sur ça. On ne peut pas bloquer. On n'est pas rendu à bloquer les étudiants pour s'inscrire à moins de cours. On essaie de gérer la vague. Mais c'est sûr qu'ultimement, ça part des étudiants. Donc, moi, je pourrais passer un petit message là, à travers le podcast. Là. Ça serait d'avoir ça en tête. Là. C'est un phénomène... c'est à vos amis que vous faites vivre ce sentiment-là d'impuissance ou au moment où ils arrivent pour choisir un cours, leurs cours sont complets, mais que vous, ultimement, vous savez que vous allez cheminer à 4 ou 5 cours, mais là, vous en avez 6 dans votre inscription. Donc, c'est avoir ça en tête. Puis, au niveau aussi de l'efficacité de la gestion des études, si tous ces courriels-là de « Mon Dieu, mes cours sont complets, je ne peux pas m'inscrire », on ne les avait pas, mais on pourrait beaucoup plus rapidement s'attaquer aux vrais problèmes des étudiants qui ont des conflits ou qui ont des situations très particulières. Donc, c'est ça, petit...
Oui, effectivement. Donc, c'est vrai que session après session, on le remarque, on lance le message aux étudiants, mais quand même, c'est une réalité qui fait que après le début, même après la première semaine, il y a comme une période de désinscription. Mm-hmm. Donc, la session est commencée. Donc là, on voit tout à coup les inscriptions drop là, de façon que là, ben, il y a des places qui sont disponibles.
Si jamais vous donnez vraiment à être dans tel cours, telle plage horaire, ben vous pouvez attendre aussi. Pour la session d'hiver, ben pendant les vacances de Noël, ça va regarder quand même souvent. Puis là, des fois, il y a de la place qui va se libérer. Sinon, première semaine de cours, il y a des bonnes chances que oui.
Exactement.
Vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre rêve d'avoir tel enseignant ou tel cours. Vous pouvez attendre de voir, puis probablement qu'il y a des places qui vont se libérer.
Exactement.
Aviez-vous autre chose à rajouter?
Ben non.
Ça fait le tour.
Merci encore.
Merci à vous. Bref, vous êtes une ressource quand même extraordinaire et essentielle. Donc, je ne peux pas croire qu'il y a certains étudiants qui ne savaient même pas que vous existiez. C'est bon à savoir. J'espère que maintenant, on vous a répondu à... Ben vous avez répondu à plusieurs questions. Puis que si vous en avez besoin de la gestion des études, ben vous n'hésiterez pas à aller les voir. Donc, merci beaucoup, les filles, d'avoir accepté mon invitation puis d'avoir fait cet épisode-là.
Merci à toi.
Plaisir, merci.